VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Ebola en RDC. Deux nouveaux décès attribués à l'épidémie de fièvre hémorragique ont été enregistrés, ce qui porte à 27 le nombre total de morts depuis un mois dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays, ont indiqué les autorités sanitaires congolaises ce mercredi. Il y a eu la mort d'un cas confirmé à Bikoro, ainsi que le décès d'un cas suspect à Iboko, souligne le ministère de la Santé. Pour le cas suspect, la famille a refusé le prélèvement d'échantillons, ont précisé les autorités. À la date du 4 juin, 58 cas de fièvre hémorragique ont été signalés, dont 37 confirmés, 14 probables et 7 suspects. Depuis le lancement d'une campagne de vaccination ciblée le 21 mai, 1369 personnes ont été vaccinées, dont 597 à Mbaka, à Mbandaka, le chef-lieu de la province, 299 à Bikoro et 473 à Iboko, indique le ministère de la Santé. Et toujours en RDC, les partisans du président Joseph Kabila réaffirment leur attachement au respect de la Constitution face aux opposants, qui mettent en garde contre un possible troisième mandat de la part du chef de l'État. Les explications du porte-parole de la majorité présidentielle, André-Alain Atundu.
Sont les procès d'intention que l'on voudrait prêter et au président et à la majorité, parce que depuis que le président de la République a déclaré devant le Congrès qu'il allait respecter la Constitution en ce qui concerne les dispositions concernant un chef d'État, eh bien, on n'a enregistré aucun acte de nature à entraver ou à contredire cette déclaration officielle. Et donc, tous les gens qui parlent d'un troisième mandat, d'une démarche, etc., mais je crois qu'ils font plus de la provocation. Je ne suis pas loin de soupçonner ces gens-là de n'avoir pas les moyens de se préparer aux élections pour distraire l'opinion par des rumeurs de ce genre.
André-Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle en RDC. Au Congo-Brazzaville voisin, trois militants du mouvement citoyen Ras-le-Bol, dont le coordonnateur Franck Nzila Malembe, ont été libérés mardi dans la capitale après avoir été détenus pendant près de mois. Ces militants ont été arrêtés alors qu'ils menaient une campagne appelant à la libération des prisonniers politiques. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Tout a commencé dans la matinée de mardi lorsque les leaders de la société civile conduite par l'OCDH ont entamé des démarches auprès du directeur général de la police, le général Jean-François Ndengue, et du ministre de la Justice, Ange-Aimé Bininga, demandant la libération des jeunes du ras-le-bol. C'est en fin de journée que ce plaidoyer spontané a porté ses fruits. D'après Trésor Nzilakende, qui a reçu les assurances fermes du ministre de la Justice, les autres membres du ras-le-bol arrêtés le 7 mai à Pointe-Noire devaient être libérés dans un bref délai. Franck Nzila Malembe et ses deux compagnons ont été arrêtés en plein quartier Poto-Poto alors qu'ils menaient une campagne d'affichage des Fidji et dont le message appelait à la libération des opposants politiques en détention. Cette libération intervient alors que s'est ouvert lundi à Brazzaville le procès des compagnons du général Jean-Marie Michel Mokoko. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Agitation anglophone au Cameroun, des anglophones de la province du Nord-Ouest ont fait 18 propositions visant à sortir le pays de la crise en zone anglophone. Des recommandations préparées par plus de 800 personnes, notamment des responsables politiques et des autorités administratives et traditionnelles, ainsi qu'un échantillon représentant la population qui ont pris part à Bamenda, chef-lieu de la province anglophone du Nord-Ouest, à une concertation baptisée « Mission d'écoute des populations » à l'initiative d'une commission créée par le président Paul Biya. Parmi les suggestions de cette commission pour la promotion du bilinguisme et du multipartisme, l'ouverture d'un débat sur l'instauration du fédéralisme et l'abrogation de la loi sur le terrorisme. La quasi-totalité des anglophones arrêtés depuis le début de la crise en 2016 le sont sur la base de cette loi et encourent la peine de mort. Les membres de la commission ont aussi dénoncé la marginalisation des anglophones et l'injustice dont ils se disent victimes, en particulier dans le système éducatif et administratif.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À Madagascar, investiture du tout nouveau Premier ministre malgache Christian Tsai, aujourd'hui à Antananarivo, la capitale. Ma priorité est la préparation d'une élection présidentielle inclusive et acceptée par tous, a déclaré M. Tsai lors de la passation de pouvoir avec son prédécesseur Olivier Mafali Solondrassane. Plus de détails sur les plans du chef du gouvernement malgache avec Jacques Aristide.
Christian Tsai, haut fonctionnaire international, doit former un nouveau gouvernement dit de consensus après injonction de la Cour constitutionnelle. Le MAPAR de l'ancien chef de l'État, Andra Joël, a revendiqué la paternité de sa nomination alors que les partisans de l'ancien président Marc Ravalomanan dénoncent un acte accompli sans consultation. Les élections générales étaient prévues en novembre et décembre, mais la haute Cour constitutionnelle a imposé qu'elles se déroulent avant septembre. Les anciens présidents Ravalomanan et Rajoel ont déjà laissé entendre qu'ils vont se lancer dans la course. En revanche, le président R. Rajanarmampian, dont l'opposition réclamait la démission, n'a pas encore annoncé s'il comptait briguer un autre mandat.
Toujours en Afrique australe, au Mozambique, 7 personnes ont été tuées, plusieurs dizaines de maisons brûlées dans une attaque attribuée à un groupe islamiste actif dans la région. Le point avec Marie Benson.
Dans le village de Naoudé, 7 personnes ont été tuées avec des machettes et 164 maisons ont été brûlées lors d'une attaque qui a fait aussi 4 blessés. Selon le porte-parole de la police mozambicaine, Ignacio Dina, le groupe djihadiste pourrait être le même qui avait décapité des villageois le 27 mai dans la même région. Le groupe de musulmans radicaux connu sous le nom de Al-Shabaab avait tué 10 personnes. La police affirme que 9 membres de ce groupe ont été tués. Plus de 300 personnes soupçonnées d'être des proches ou sympathisants ont été arrêtées depuis octobre.
Écologie en Afrique, la pollution au plastique a été cette année le thème principal de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin. En Afrique, 4 400 000 tonnes de plastique se retrouvent dans les mers et océans chaque année, selon des chiffres de 2010 utilisés par l'ONU. Et le problème des déchets n'est que l'un des multiples défis environnementaux auxquels fait face le continent africain. Au micro d'Anastasie Toudièche, lors de notre entretien télévisé sur VOA Afrique, les explications du professeur d'université et fondateur d'Environnement Afrique, Adams Tidjani.
Les 3 défis écologiques auxquels font face le continent, c'est principalement la gestion des ordures ménagères. Dans ces ordures ménagères, je citerai le plastique et nous avons également les eaux usées. C'est un problème d'assainissement. Et pourtant, à y garder de près, tous ces pratiques de déchets peuvent être revalorisées pour donner justement des produits qui seraient très utiles à la population.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous citez des problématiques véritablement urbaines.
Absolument. Bon, en général, dans les villages, c'est surtout les résidus agricoles qui posent de sérieux problèmes de déchets. Et les populations ont tendance à les brûler, malheureusement, alors qu'ils ont un potentiel pour les valoriser. Ça peut servir pour régénérer un peu les sols. Ils ont tendance à les brûler, ce qui participe au réchauffement climatique, malheureusement.
Est-ce que vous avez un ou des pays sur le continent qui seraient exemplaires ou qui pourraient être sur la bonne voie en termes de préservation de l'environnement?
Pas spécialement. Bon, je sais que moi, je travaille avec le Maroc par rapport au tri des déchets dans les ménages. J'entends dire que le Rwanda est un bon élève en termes de déchets plastiques, mais je ne suis jamais allé.
Alors, à quoi attribuez-vous ce que vous décrivez comme une espèce de vide politique en termes d'écologie sur le continent?
Je pense que c'est dû principalement au manque d'éducation. À la base, et nous nous battons pour cela, pour justement qu'on introduise des modules écologiques dans le système scolaire, parce que je pense que quand vous avez une population qui n'est pas éduquée, qui n'est pas conscientisée ou sensibilisée par rapport aux questions écologiques, on arrive à ce résultat. Et je pense que le problème va empirer, parce que malgré nos efforts, à qui nous allons léguer la planète demain? Si nous léguons la planète à nos enfants qui n'ont aucune culture environnementale, ça ne servira absolument à rien. Je pense que c'est là où...
Si je vous entends bien, donc des modules écologiques pour les enfants, mais aussi à glisser peut-être dans les attachés case des responsables politiques. Alors, un projet qui aurait pu rassembler le continent, celui de la Grande Muraille Verte, projet écologique ambitieux, vous pouvez nous en dire quelques mots?
Enfin, c'est un projet qu'il faut saluer parce que, bon, je pense que ça voulait donc justement mettre en place une barrière forestière pour lutter contre l'avancée du désert. Ça, je pense, c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect également, ça permettait donc de régénérer les sols et surtout de régénérer les écosystèmes. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a une perte importante de la biodiversité. D'après le dernier rapport, on a pratiquement 40% de la biodiversité. Et quand on sait que la biodiversité est la source principale où les populations vont se servir pour, aussi bien pour la nourriture que pour leur commerce, on comprend l'importance de ce projet. Malheureusement, je pense que l'approche participative n'a pas été bien menée dans le cadre de ce projet. On aurait dû plus impliquer les populations, à mon avis.